Vous écoutez On lit pour vous.
Trois initiatives pour favoriser la mixité sociale dans les lieux publics. Un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Médiation intellectuelle. As-tu du Aristote ou du Platon? Celui qui lance la question est dans la soixantaine et il a élu domicile sur la promenade Ontario. « As-tu de la philosophie dans ton camion? » ajoute-t-il. On le surnomme Burger et il est bien connu des résidents du coin et de Batone Neto, médiateur à Execo depuis 2016. Au volant de sa camionnette blanc et rouge, l'ancien professeur de philosophie au Brésil fait un crochet pour s'arrêter devant l'homme installé, avec coussin et sac de couchage, tout près de l'entrée d'une épicerie. Burger se porte acquéreur d'une paire de lunettes de vue et jette son dévolu sur le dictionnaire du look. Ouvert à une page de photos, l'ouvrage attise la curiosité d'un passant qui s'arrête pour discuter lui aussi d'images et de vêtements, créant un moment de partage inespéré entre citoyens logés et itinérants. Parfois, par leur seule présence, les médiateurs de la caravane créent un apaisement dans un environnement perçu au préalable comme étant dangereux par les citoyens logés, favorisant les échanges. Dans cette relation, les deux côtés s'humanisent. Les rideaux de fumée tombent, on s'élève à un autre niveau de dialogue, indiquait Batonnet récemment lors du lancement d'un rapport sur la cohabitation vu par les personnes en situation d'itinérance. La caravane culturelle et philosophique roule depuis 2012. Le projet HID d'Action Mobile, piloté par l'organisme Execo, se veut un prétexte au dialogue et à la mixité sociale et s'inscrit dans une démarche d'inclusion sociale beaucoup plus large. La racine de nos missions, c'est la médiation intellectuelle, explique Batonnet. Une pratique qui allie climat de confiance, inclusion, égalité et partage d'expérience. On essaie de donner de l'espace à la relation la plus vivante possible, poursuit-il. À chaque sortie, les médiateurs se déplacent vers les personnes seules, celles qui ne sont pas hébergées ou accompagnées par d'autres organismes. On ne travaille pas avec des symptômes. On travaille avec des humains, illustre l'autre moitié du duo, Monica Manjou-Jeannot. Les discussions tournent autour de la littérature, de philosophie et de musique. On fait un break de rue, ajoute Monica, qui trouve toute la pertinence du projet dans les petits moments de magie qui se créent spontanément. On arrête de penser à la situation, là où ils vont manger et dormir. Pendant quelques minutes, on discute sur le même niveau d'égalité, d'intelligence. Au détour du boulevard de Maisonneuve, Batonnet reconnaît un homme tout de noir vêtu. « Hein, Paul !» Le médiateur se stationne derrière le défunt magasin de la baie du Thon. Paul s'installe pour discuter. Qu'est-ce qu'on fait quand le monde, les êtres humains sont vraiment dans l'ego, dans l'innocence, dans l'immaturité, le non-respect? Demande Paul. Une vingtaine de minutes plus tard, il remercie Batonnet et Monica et lance « C'est bon de récolter l'invisible ». Des intervenants psychosociaux à la Grande Bibliothèque. Un homme assez âgé se présente récemment à la bibliothèque. Il n'a pas l'air d'avoir de chez lui. Il fait frais à l'intérieur et les bancs moelleux de l'espace jeune l'appellent de tout son corps. Il s'endort, mais sa présence inquiète les employés et les parents. Entre alors en scène l'intervenante psychosociale Fanny Chapierre. « Je comprends que tu es fatigué et que tu veux un endroit paisible, mais tu dors dans un espace où il y a plein d'enfants, lui, dit-elle. Tu n'as pas leur âge. Tu n'es pas là pour lire. « Est-ce que tu voudrais que je te trouve une solution ?» relate-t-elle. L'homme est venu avec moi à mon bureau et nous avons discuté. Depuis le début du projet, au printemps 2024, l'intervenante et ses collègues de la Société de développement social, l'organisme partenaire de BANQ, ont fait plus de 2000 interventions. Le bilan est très positif, explique la directrice générale de la Grande Bibliothèque, Laureen Mook-Colombani. Elle énumère les mesures implantées ces dernières années pour favoriser la mixité sociale. L'accès au casier, pour que les gens puissent y déposer leurs affaires durant la journée. L'utilisation des salles de bain sans intervention de la sécurité. Les amendes qui ont été retirées ou encore la possibilité de s'abonner sans adresse et d'ainsi pouvoir utiliser les postes informatiques. Encore aujourd'hui, on doit expliquer que le fantasme autour de la bibliothèque sacrée où rien ne bouge et où personne ne respire quasiment, ce n'est pas ce qu'on veut, explique Mme Mook-Colombani. La mixité sociale à BANQ, on la voit tous les jours, ajoute Mathieu Thuot-Dubé, directeur de l'éducation et de l'action culturelle de l'institution. Ce n'est pas vrai que ça ne crée pas d'écueil, mais la bibliothèque est un réel troisième lieu. En plus d'être intégrée au réseau des haltes chaleurs et des haltes fraîcheurs et d'avoir ajouté des intervenants psychosociaux, l'institution a conclu de nombreux partenariats avec des organismes communautaires du quartier, notamment Tapage, Québec, Spectre de rue et la mission Oldbury, pour offrir des services complémentaires. Au quotidien, le travail de Fanny Chapière consiste à offrir d'un côté des services de première ligne, donc à aider sur place à régler des situations parfois délicates avec des usagers logés ou en situation d'itinérance. Elle offre également des services de deuxième ligne. À force de voir les intervenants, de se familiariser avec notre présence, des personnes en situation d'itinérance finissent par nous dire « Je me retrouve dans telle situation. Est-ce que tu peux m'aider ?» explique l'intervenante. Cette aide peut, par exemple, prendre la forme d'un accompagnement pour se trouver un logement, demander des papiers ou être dirigé vers d'autres instances ou ressources. Le rêve d'aménagement urbain de Mafalda. Des conteneurs quatre saisons, inspirés des maisons longues autochtones, offrant tous les services essentiels, des murs couverts de végétaux, une bibliothèque libre de prêts et des guirlandes de lumière accrochées aux arbres, sont quelques éléments du rêve d'aménagement urbain de Mafalda, une femme qui a l'expérience de la rue. Travailler avec ces personnes-là, c'est tout à fait possible. On combine nos expériences et nos expertises, explique Sonia Blank, architecte et chargée de recherche à Architecture sans frontières Québec, ASFQ, qui conçoit des designs d'aménagement urbain imaginés par des personnes ayant connu l'itinérance. C'est comme si on engageait des consultants experts. Ils sont rémunérés. Nous avons des rencontres et des ateliers. Des liens se créent. Dans le petit sanctuaire imaginé par Mafalda, les couples et les animaux seraient acceptés. Les résidents auraient leur intimité, pourraient entretenir un jardin, organiser des activités ludiques et travailler dans un café. Pour répondre aux défis de sécurité, sans empiéter sur le sentiment d'autodétermination, il y aurait des travailleurs sociaux sur place et de la surveillance par les pairs. Une des choses importantes pour elle, c'était de considérer la sécurité des personnes marginalisées au même titre que celle des résidents du quartier, et de s'assurer qu'il y a des programmes diversifiés qui font que c'est un milieu de vie et pas seulement un toit, résume Mme Blank. Permettre aux principaux intéressés de faire partie de la solution, et pas seulement de leur demander ce qui ne fonctionne pas, permet d'aller plus loin que ce qui est généralement proposé, estime Mme Blank. En construisant des logements sans vraiment comprendre ce dont les gens ont besoin, on arrive toujours avec des résultats qui sont décalés. aucun des plans architecturaux collaboratifs ne s'est concrétisé jusqu'à maintenant. Mais l'accueil est positif. Pour les citoyens logés, voir des idées qui ont été réfléchies par des personnes de la rue, c'est super inspirant. Il n'y a pas de réaction négative, dit avec enthousiasme Mme Blank. Les plans ont été présentés dans plusieurs événements, notamment au comité de cohabitation de la ville de Montréal. Je pense qu'il y a de la visibilité, mais c'est aussi une question politique, constate-t-elle. Pourtant, les plans sont réalistes, estime l'architecte, qui y voit à tout le moins un point de départ pour sensibiliser les municipalités à ce qui pourrait être fait pour adapter les espaces aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Advenant leur mise en œuvre, les citoyens seraient aussi mis à contribution, assure-t-elle. C'est important de créer des liens avec le voisinage, pas juste pour ce qu'on appelle la cohabitation ou empêcher le « pas dans ma cour », mais aussi parce que c'est comme ça que tu te sens bien dans un quartier. C'était trois initiatives pour favoriser la mixité sociale dans les lieux publics, un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Le jardin parfaitement imparfait d'un couple de granola. Un texte de Marco Fortier paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir. On remarque tout de suite la fraîcheur, le parfum d'herbe et de fleurs qui flottent dans l'air ainsi que l'abondance de verdure. Le terrain de Jean-François Bégin et de Kirsten Zweig à Laval a des airs de mini-jardin botanique. Le couple de retraités a aménagé cet Éden avec ses mains, sans outils électriques ou à essence, et sans pesticides. Bienvenue dans ce sanctuaire où la lenteur reprend ses droits. « On est des granolas », lance Kirsten Zweig en nous accueillant à la résidence du couple dans une rue tranquille du quartier Pont-Viau. Les deux horticulteurs en herbe ont eu envie de faire part de leur recette de jardin éco-responsable après avoir lu le récent reportage du Devoir sur l'obsession de la pelouse parfaite. Jean-François Bégin et Kirsten Zweig, eux, incarnent l'antithèse de cette esthétique du terrain gazonné hérité de la bourgeoisie du siècle dernier. Pour les deux jardiniers, il n'existe pas de mauvaises herbes, mais plutôt des plantes ayant mauvaise réputation. Ils considèrent les prétendues mauvaises herbes comme des plantes éco-désirables, adaptées au climat local, résistantes, souvent jolies et nécessitant un apport minimal d'eau. Ils se décrivent comme des disciples de la nature, inspirés par le frère Marie-Victorin, auteur de la flore laurentienne, véritable bible des espèces indigènes. On forme une communauté d'êtres vivants avec notre jardin. On est des terriens, on vient de la terre, on va retourner à la terre, dit Jean-François Bégin. Il y a quelque chose de spirituel dans la démarche du jardinier et de son amoureuse. Le natif de Jonquière et sa future conjointe d'origine allemande se sont connus il y a trois décennies lors d'un séjour humanitaire en Ouganda, dans l'est de l'Afrique. Lui était missionnaire laïque pour la communauté des Pères Blancs. Elle était infirmière. Aventure horticole. Les deux affirment n'adhérer à aucune religion, mais prônent des valeurs humanistes. La philosophie bouddhiste les inspire. Un discret Bouddha semble méditer dans un coin de leur cour. Le couple cherche à ralentir, à aller à contre-courant de la société de consommation. C'est dans cet esprit que leur bungalow de Laval est devenu le centre d'une aventure horticole qui détonne par rapport au terrain du voisinage. Pas moins de 160 espèces de plantes et d'arbres cohabitent autour de la maison où ont grandi leurs deux fils devenus adultes. Le terrain est devenu une attraction qui intrigue les passants. Le bon vieux gazon occupe une infime partie du terrain des Bégin-Zweig.
des plantes vivaces considérées comme des nuisances par les adeptes de la pelouse parfaite sont à l'honneur, le trèfle, les marguerites et même les asclépiades, qui se répandraient à la vitesse de l'éclair sans intervention humaine, enjolivent le site. Des arbustes, des fleurs de toutes les couleurs, une variété d'arbres, chênes, mélèzes, épinettes géantes, pommiers, etc., des fougères et bien d'autres espèces peuplent ce jardin unique. Des vignes qui viennent s'accrocher à une structure de bois érigée dans la cour arrière font office de parasol. La terrasse est d'une fraîcheur indéniable en cette journée de canicule. Du compost maison. Jean-François Bégin aménage ses plates-bandes à l'aide de matériaux récupérés à gauche et à droite, des pierres issues des travaux de réfection de la rue, de vieilles branches de lilas et même des morceaux de vases en céramique délimitent les îlots de végétation dispersés sur le site. Des branches d'arbres servent aussi à la fabrication de clôtures qui ont l'avantage de se décomposer, ce qui nourrit le sol, souligne le jardinier. Le compostage est depuis toujours à la base de la recette horticole du couple, bien avant le succès retentissant de l'horticultrice et humoriste Marthe Laverdière. Jean-François Bégin enterre dans ses plates-bandes les feuilles mortes de ses arbres. Quand il a dû faire abattre l'immense érable de Norvège qui traînait devant la maison en 2024, l'horticulteur a insisté pour laisser sur le sol les copeaux de bois que l'émondeur voulait ramasser. Le plus beau, c'est que le couple n'a pratiquement jamais besoin d'arroser sa pelouse, qui résiste naturellement aux périodes de sécheresse. Le peu d'arrosage se fait avec de l'eau de pluie récupérée dans un baril, et la tondeuse à bras? 4 fois par été, pas plus. Quant aux mauvaises herbes, pardon, aux plantes, éco-désirables, digitaires, asclépiades, anémones du Canada, verges d'or, fougères et même hémérocales, elles sont arrachées à la main afin qu'elles n'accaparent pas tout l'espace, mais pas complètement éliminées quand même. Ça pousse tout seul, on en profite. La nature d'abord. Un peu plus au nord, dans le quartier Vimont, toujours à Laval, Jean Lavoie a la même conception de ce qu'est un beau terrain. Pour lui, l'usage de produits chimiques pour venir à bout des prétendues mauvaises herbes n'a aucun sens. C'est une mauvaise idée d'empoisonner le gazon pour éliminer certaines plantes, lance-t-il avec indignation. Les pesticides ont des effets sur la santé des humains, particulièrement les enfants, sur les insectes pollinisateurs, sur les petits animaux, sur la nappe phréatique et sur les plantes elles-mêmes, souligne le Lavallois. Au lieu d'essayer de créer les conditions propices à la croissance de l'herbe en monoculture, Jean Lavoie s'accommode de la présence de plantes indigènes qui finissent par composer l'essentiel du couvert végétal de ma pelouse. De façon naturelle, sans effort particulier. C'était le jardin parfaitement imparfait d'un couple de granola, un texte de Marco Fortier paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir.
Plus de poids, plus de résultats. Un texte de Catherine Handfield, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. La marche, c'est la plus simple des activités physiques. Sachez qu'il existe une façon tout aussi simple de maximiser ses bienfaits. Marcher avec une veste ou un sac à dos lesté. On en discute avec le physiothérapeute Denis Fortier, lui-même adepte du rocking. Accessoires chouchou. Denis Fortier pratique la marche et la course pour se garder en forme. Son accessoire chouchou? Son sac à dos lesté. C'est un sac petit et plat dans lequel on glisse un poids semblable à une planche à découper épaisse. Denis Fortier possède aussi une veste lestée, qui ressemble à une veste de flottaison individuelle, version lourde. Pour Denis Fortier, auteur des livres « Lève-toi et marche » et « Plus jamais malade » chez Tricaré, c'est une manière efficace de rendre son entraînement plus payant pour la santé. Différents programmes. Le rocking, R-U-C-K-I-N-G, ou marche avec sac lesté, est associé aux entraînements militaires. Normal, porter du poids fait partie du travail des soldats. Cela étant dit, nul besoin d'être un jeune adulte musclé et en pleine forme pour pratiquer cette forme de marche. C'est applicable dans plein de contextes, du CrossFit à la réadaptation, résume Denis Fortier. Il donne l'exemple d'un programme destiné aux personnes ayant subi un accident cérébral vasculaire qui utilise justement des vestes lestées. Chez les sportifs. À l'autre bout du spectre, les athlètes peuvent aussi s'entraîner avec des vestes ou des sacs lestés pour augmenter leur performance. De petites études menées sur des joueurs de badminton et de soccer ont montré qu'un tel entraînement pourrait rendre les changements de direction plus rapides sur le terrain. Quand je fais des intervalles avec mon sac lesté, je peux vous dire que lorsque je l'enlève, ça y va par là, résume Denis Fortier. Toute une gamme de personnes peut y trouver son compte, dit-il, tant le trentenaire qui se rend au travail à pied que l'octogénaire qui trouve la marche régulière un peu pépère. Multiples bienfaits. Marcher avec du poids a plusieurs avantages pour la santé. Cela augmente le niveau de difficulté et donc la dépense énergétique. Les gens accèdent donc plus facilement à des niveaux d'intensité modérés, chaleur et difficulté à chanter, et soutenus, chaleur et difficulté à parler. C'est à partir de l'intensité modérée que les bienfaits d'une activité physique deviennent substantiels. Ça a des bienfaits sur le cœur, sur nos artères, sur la circulation sanguine, sur les poumons, sur la respiration, sur le cerveau, énumère Denis Fortier. C'est aussi bon pour la santé des muscles. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de faire au moins 2 séances d'exercice de musculation par semaine. Le sac et la veste lestée permettent facilement de renforcer les cuisses. Il suffit de monter et descendre les escaliers ou encore de faire une dizaine de squats ou de demi-squats pendant sa marche toutes les 5 ou 10 minutes. Sac ou veste? Certaines personnes trouveront la veste plus confortable et d'autres le sac. Tout dépend de l'anatomie et des préférences de chacun. Les deux options ont leurs avantages. Le sac lesté est proche du corps. La veste, elle, se porte facilement sous un manteau en hiver et son poids est réparti autour du corps. Elle a aussi tendance à compresser un peu plus la respiration, observe Denis Fortier. Dans un contexte d'entraînement, c'est intéressant d'avoir une contrainte au niveau de la cage thoracique. Ça stimule ces muscles-là, mais une personne plus anxieuse pourrait trouver cela moins le fun, dit-il. Il existe aussi des poids à mettre aux chevilles et aux poignets. Ça augmente la charge, mais c'est compliqué de mettre autant de poids que dans un sac ou une veste, prévient M. Fortier. Les gens qui ont des problèmes articulaires devraient éviter de mettre des poids supérieurs à 2 kg par cheville, indique-t-il. Et un sac à dos ordinaire? On peut aussi choisir une troisième option, un sac à dos ordinaire dans lequel on met du poids tout simplement. J'aurais tendance à prendre un petit sac à dos pour que le poids soit plus haut. Si le sac ballotte, ce sera moins confortable, indique Denis Fortier. Et j'utiliserai la courroie à la taille ou la courroie thoracique pour la rapprocher du corps. Les bretelles devraient aussi être coussinées. Ce genre de sac à dos offre la meilleure combinaison en matière d'équilibre, de stabilité et d'activation des muscles. Plus le sac est près du centre de masse du corps, moins il change notre patron de marche, ajoute Denis Fortier. Y aller progressivement. Avant de dépenser sur un sac à dos ou une veste lestée, des produits onéreux, Denis Fortier conseille d'essayer d'abord avec un sac à dos ordinaire. Et allez-y progressivement, insiste-t-il. On peut commencer avec un poids équivalent à 5 ou 10 % de son poids. Et quel genre de poids mettre? Denis Fortier pense à des bouteilles d'eau ou encore à des pommes de terre. Pour que le poids soit stable et proche du corps, on peut compresser les bouteilles ou les patates avec des serviettes de bain. Danger pour le dos? Le rocking est-il douloureux pour le dos ou pour les trapèzes? Le corps est fait pour transporter des choses, rappelle Fortier. Si ça fait mal, c'est peut-être parce que c'est trop pesant, dit-il. Il y a aussi deux mouvements qu'on ne veut pas faire avec les épaules, autant en marchant que devant un ordinateur. L'arrondissement des épaules et l'élévation des épaules. Denis Fortier conseille de prendre conscience, en marchant, de sa posture et de sa respiration. Où les acheter? Denis Fortier ne suggère jamais de marque, mais on compte assez peu de modèles de vestes et de sacs lestés sur le marché. Des vestes lestées sont en vente chez Sport Expert et Decathlon. Des marchands en ligne vendent à la fois des sacs à dos et vestes lestées, dont Northern Fitness, Rogue et Amazon. C'était « Plus de poids, plus de résultats ». Un texte de Catherine Handfield, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.